Avec ses ambiguïtés, j'ai vu, donc le Midrash, lui, il s'attache à donner un sens de mitzvah à cette première phrase. Donc, c'est les mises en garde. Ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que vous avez vu ou entendu des choses nombreuses que vous pouvez en déduire qu'il y a plusieurs divinités, etc. Et dans Daleps, voilà ce qu'il dit. Bavacha, Bar-Hanina, Patach-Bo, il a ouvert la discussion avec le verset Shim'a Ami Vadabera. Écoute mon peuple et je vais parler. Écoute, ça veut dire, si on dit à quelqu'un écoute, ça veut dire prépare-toi. Je vais parler, prépare-toi à entendre ce que je veux te dire. Amar Rabbi Shimon bar Ben Yochai, Amar lehem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu dit quelque chose à son peuple, après lui avoir dit, écoute bien, prépare-toi, je vais te dire, sous-entendu, je vais te dire quelque chose de très important. Il faut que tu sois capable d'entendre. Eloah ani al kol ba'e olam. Aval lo ichadti shmi ela alechem. Je suis le Dieu du monde entier, de toutes les créatures du monde. Mais je n'ai accolé mon nom qu'à vous, c'est-à-dire. Je suis en fait un Dieu universel. Mais pour vous, j'ai accepté d'apparaître comme une espèce de Dieu local, un Dieu limité, le Dieu d'un seul peuple. C'est-à-dire, Eninikra Elokei Ovdekoravim Umazalot. Je ne suis pas appelé le Dieu des idolâtres. Ela Elohe ou Elohe Israël, je suis le Dieu d'Israël, je suis appelé le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Si vous voulez, il y a ici un phénomène, se passe quelque chose, Hachem fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ça veut dire que c'est comme si il ne se déploie pas complètement, il ne se déploie que autour des Bnei Israël. Ou si vous préférez, c'est un phénomène de Tsimtsum. C'est un phénomène de. Le Tsimtsum, c'est une démarche qu'Hachem a, qui est de concentration, se concentrer, se restreindre. Pour laisser de la place aux autres, en fait. Le tzimtzoum, c'est ce terme qui est utilisé beaucoup par les kabbalistes pour expliquer que pour qu'il y ait une possibilité d'existence du monde, il fallait qu'Hachem leur laisse la place au monde, en fait. Hachem y remplit tout. Et donc, il faut qu'il se retire d'une partie de et qui laisse apparaître. C'est comme si vous voulez, quand on est en pleine lumière, ben on voit rien du tout. Pour qu'on voit quelque chose, il faut se retirer un peu, faire apparaître une zone d'ombre, et du coup, dans cette zone d'ombre, la lumière peut éclairer. Donc Hachem dit au Bnei Israël, je vous ai fait quelque chose, j'ai fait pour vous quelque chose d'extraordinaire. Je suis un Dieu universel et j'ai accepté d'apparaître comme un Dieu local. Si vous voulez, c'est exactement le contraire de ce que disent des les gens qui prétendent expliquer les choses, qui disent que l'Israël, c'était un dieu local qui est devenu universel. Le Midrash, il dit exactement le contraire. Hachem dit, je suis un dieu universel. Mais pour vous, j'ai accepté d'être un dieu local, en quelque sorte. C'est une première chose. C'est à cela que c'est pour entendre cela, Hachem a demandé Shema Ami, c'est-à-dire Shema Ami, écoute mon peuple, et je vais parler. Ça veut dire, je vais te dire quelque chose d'énorme, en fait, ce que j'ai fait pour vous. Et se restreindre pour vous faire exister, vous, particulièrement. Et maintenant, Amar Rav Lévi, Shnei Dvarim Sha'alu Israël Milifnei HaKadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël ont demandé deux choses à HaKadosh Baruch Hu. Ils lui ont demandé, premièrement, Sheyiru Kvodo, ils ont demandé à voir la gloire divine. C'est-à-dire, montre-nous ta gloire. Bien sûr, on ne peut pas te voir. Mais la gloire qui t'entoure, en fait, on voudrait voir. Et deuxièmement, Vishmeu Kolo. Ils ont demandé à entendre la voix d'Hachem. Vayuroim et Kvodo, Veshomim et Kolo. Et ils ont vu la gloire divine, et ils ont entendu sa voix. C'est marqué dans le Passouk, dans Sefer Dvarim. Vatomru, vous avez dit effectivement, Hen heranu Hashem Elokeinu et kvodo ve et godlo. Oui, c'est vrai. Hashem, notre Dieu, il nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et c'est marqué, ve et kolo shamanu mitochaesh. Et sa voix, nous l'avons entendue venant du feu, c'est-à-dire dans le son et lumière qu'il y avait. Au moment de Matan Torah, dans cette lumière, il y a eu le son de la voix, qu'on appelle la voix d'Hachem, dont on a parlé déjà plus haut. Donc Hachem leur a montré cela. Ils l'ont demandé et ils l'ont obtenu. Seulement, velo haya bahem koach la'amod. Mais ils n'avaient pas la force de se tenir debout devant cela. Ces manifestations, ils ne pouvaient pas les supporter. Quand ils sont arrivés au Sinaï, qu'Hachem s'est dévoilé à eux, leur neshama s'en est allé parce qu'il avait parlé avec elle. Avec eux, avec les Bnei Israël. Nafshi yatsa bedabro. Dans Shirashirim, la princesse dit, mon âme s'est envolée quand il m'a parlé. Mon âme a été tellement attirée par lui quand il m'a parlé qu'elle s'est envolée. Donc les Bnei Israël ont demandé quelque chose, ils l'ont obtenu, mais ils en sont morts. Bon, ils sont morts. Alors, on a déjà dit souvent que quand les Bnei Israël ont entendu la première des 10 paroles, ils ont été projetés en arrière, ils sont morts. D'autres Midrashim disent, et ils ont ressuscité. Quand ils ont ressuscité avec fiché au cœur, si vous voulez, la première parole de Aseret HaDibrot. Quand ils ont entendu la deuxième parole, même chose, même scénario. projeté en arrière, ils meurent, ils ressuscitent, mais avec en eux la deuxième parole, l'Oli Elcha, Elohim Acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et puis à ce moment-là, ils ont dit à Moshe, ça va, on a peur, on veut plus entendre la parole divine. On a peur de mourir. C'est vrai qu'on est ressuscité, mais bon, deux fois d'accord, la troisième, on n'est pas partant. Et du coup, les huit dernières paroles d'Hachem, les Bnei Israël les ont entendues, dites par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu les a reçues d'Hachem et il les a transmises aux Bnei Israël. Quand ça transitait par Moshe Rabbeinu, c'était audible sans qu'ils en meurent. Et Moshe Rabbeinu, il ne mourrait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que je ne sais pas, si Moshe Rabbeinu est aussi mort dans les deux premières. Parce que c'est possible que la raison pour laquelle il ne meurt pas dans les dernières, c'est parce que comme il est au service du clan Israël, c'est plus lui en tant que tel. Il a la potent... il représente tout le clan Israël, si on veut. Donc il est beaucoup plus que lui-même. Donc c'est possible que dans cette situation-là, quand il représente tout le clan Israël, il ne meurt pas. Ça veut rien dire sur le fait que quand il était parmi les Bnei Israël, bien sûr, même s'il était déjà à Moshe, etc., peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas de texte qui nous dise si oui ou non à ce moment-là, il est lui aussi mort. Bon, a priori, dans la suite de notre Midrash, on a l'impression que oui.
La révélation d'Hachem au moment du silence, elle est beaucoup plus élevée que celle qui concerne la relation de Moshe et Hachem.
Non? Moshe, peut-être, Moshe, à partir du moment où c'est lui qui doit être le dépositaire de la parole divine pour en parler au Bnei Israël, il supporte quelque chose qu'il n'aurait éventuellement pas supporté quand il était à titre personnel, mais dans la suite, effectivement, Hachem va parler avec lui et il n'en meurt pas, Moshe. C'est ça. Oui. Je n'ai pas de preuve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que même à ce moment-là, même quand tout le monde est mort, lui, il n'est peut-être pas mort. Je ne sais pas.
Mais quand Hachem a dit les paroles tout à l'heure, quoi, il les
Ça,
aura pas.
personne n'a entendu, n'a rien compris.
J'ai compris, d'accord, mais ça ne les a pas fait mourir.
Semble-t-il, peut-être pas. Enfin, visiblement pas.
Le fait d'être projeté en arrière, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu un trop gros choc, comme une décharge électrique?
Ça veut dire que c'est comme si la projection en arrière, c'est comme s'il régressait complètement, quoi. C'est comme si, avant de mourir, il fallait retrouver presque une enfance et quelque chose de ce genre-là, quoi. Il y a Claire Westmeyer qui est là dans la waiting room, mais. Pas à le faire entrer. Oh, peut-être qu'elle est entrée maintenant. Ah non, toujours moins une grande. Ah voilà. Voilà. Et bonsoir Claire. Et donc c'est comme ça. Alors. On en est là. Moi, je vous ai raconté ce que les autres Midrashim disent, c'est qu'effectivement, ils ont ressuscité. Mais là où on en est, ils sont morts seulement. Ils n'ont pas encore ressuscité. Mais c'est la Torah qui parle. Aval, a Torah biksha lehem rachamim. La Torah, elle a appelé Hachem à la tendresse. Elle en a appelé à la tendresse d'Hachem. Donc, Milifnei HaKadosh Baruch Hu, elle a appelé la Rachamim devant Hachem. Et elle a dit, l'argument, c'est Yesh Meler Masi Bito Veoreg Anshebeto, Kola Olam Kulos Mechim Ubanecha Metim. La Torah, elle a accusé. Elle a dit, est-ce qu'il est possible qu'un roi marie sa fille et le jour du mariage, il détruit tout le monde, y compris le Khatan d'ailleurs? De quel mariage est-ce qu'il s'agit ici? La Torah au Sinaï, elle a été donnée au clan d'Israël. La Torah est considérée comme la fille d'Hachem. Et le don de la Torah, c'est le mariage du clan d'Israël avec la Torah. C'est aussi des fois présenté comme étant le mariage du clan d'Israël avec Hachem. Mais là, ici, c'est présenté comme le mariage du clan d'Israël avec la Torah. Alors elle dit, est-ce qu'il est possible que le jour du mariage de ta fille, puisque c'est toi le roi, le mariage de ta fille, c'est le mariage de la Torah avec le clan d'Israël. Tu détruis tout le monde, y compris le Khatan d'ailleurs. Le Khatan, c'est le clan d'Israël. Donc ils sont tous en train de mourir. Donc quelque part, le monde entier se réjouit. Et tes enfants, les enfants du clan d'Israël, d'Akadosh Baruch Hu, ici, ils sont aussi appelés les enfants. Ça veut dire, bon, alors c'est un peu compliqué parce que si on dit qu'ils sont les enfants et que la Torah, c'est aussi la fille, alors c'est un mariage incestueux, quoi. D'accord, mais bon, il ne faut peut-être pas l'entendre comme ça, sûrement pas. En tout cas, elle a dit, c'est un scandale, quoi. Ouais, tu ne veux pas, le jour du mariage, tu tues tout le monde. Alors, quand elle a dit ça, Miyad Chazran Nishmatan, immédiatement, les Neshamot qui s'étaient envolées sont retournées à l'intérieur des corps des Bnei Israël. C'est ça, cette résurrection. C'est Neymar, c'est marqué dans les Tehillim, on dit Torah Tachem Tmima, la Torah d'Hachem, elle est parfaite, elle est entière, elle est parfaite, et puis elle est aussi Meshivat Nafesh. Elle restaure, elle restitue, elle restaure l'âme. C'est-à-dire, ça fait revivre, en fait. La Torah, c'est un élixir de vie, si vous voulez. Donc, quand les Bnei Israël au Sinaï, ils reçoivent la Torah, ils reçoivent un moyen de vivre. Comme s'ils reçoivent presque une autre vie, d'après ça. D'ailleurs, eux, ils reçoivent une vie. Ce Midrash-là, ils n'en parlent pas. Mais les autres Midrashim qui disent que quand ils ressuscitent avec fiché au cœur la parole qu'ils ont entendue. C'est-à-dire que la résurrection en question, ce n'est pas exactement la situation d'avant la mort, mais c'est le même corps, mais il y a dans le cœur des Bnei Israël qui ressuscite à ce moment-là. Il y a la première et la deuxième des Aseret HaDibrot. Quand on dit que il y a dans leur cœur une des Dibrot qui dit Lo yelcha, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça veut dire que comme c'est dans leur cœur, ça veut dire qu'il est impossible de pratiquer l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors, la question qui se pose, mais si c'est comme ça, comment est-ce qu'ils ont pu faire le veau d'or? Alors, d'abord, le veau d'or, ça n'était pas initialement du tout une idole. C'était pas un dieu. Ils ont, a priori, formellement, ce qu'ils ont cherché à remplacer, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Elohim qui va marcher devant nous, parce que Aïch Moshe, l'homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. On a besoin de quelqu'un qui représente celui qui nous a fait sortir d'Égypte. En vérité, on ne va pas entrer là-dedans maintenant, mais la faute d'Ibn Israël, elle est déjà dans cette phrase-là. Enfin, je l'avais déjà dit à Shiur de Chumash, probablement, que quand les Bnei Israël disent que c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est déjà perdu. Parce que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Ce n'est pas Moshe. Quand on dit c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, donc ils ont déjà, d'une certaine manière, au moment où ils parlent, parce que Moshe n'est pas là pour se défendre, si on peut parler comme ça, ils divinisent Moshe. Ils ont divinisé Moshe. On fait de Moshe un Dieu. Et par conséquent, quand on remplace Moshe, on remplace le Dieu Moshe. On ne remplace plus Moshe. C'est pour ça que c'est devenu une idole. Ça a pu devenir une idole. Ce qui n'était pas une idole au départ, mais ils ne s'en rendaient peut-être même pas compte qu'ils étaient en train de diviniser Moshe. Parce qu'en réalité, ce que Moshe, le rôle de Moshe Rabbeinu était tellement énorme que bien qu'il sache pertinemment chez Aish Moshe, l'homme Moshe, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Ils disent bien Aish Moshe. Mais à la limite, Moshe, c'était Isha Elohim, un homme de Dieu. Mais quelque part, Isha Elohim, ça peut se dire aussi l'homme qui est Dieu, quoi. L'homme qui joue le rôle du Dieu. Non, ça, il ne pouvait pas parce que quand Moshe, du vivant de Moshe ne les a pas laissés faire. Et quand Moshe est mort, c'est Hachem qui ne les a pas laissés faire puisqu'ils ne savaient pas où était enterré Moshe. Mais il y a eu un moment où Moshe n'était pas là pour se défendre. Quand c'est justement dans ce laps de temps où eux pensaient qu'il aurait dû être là, il n'est pas là, alors maintenant il n'est plus là. Et puis le Satan leur a fait voir hallucination collective, le cercueil de Moshe, etc. Donc ils ont vraiment cru que Moshe n'existait plus, enfin n'était plus avec eux. Donc il fallait le remplacer. Mais le remplacer, c'était pas on va le remplacer par un ish quelconque. Mais ben, on va le remplacer par quelque chose. Quoi? Ben, un Elohim.
Pourquoi
Non, à part le Créteil. Non, mais les deuxièmes Lukot, c'est après. C'est les deuxièmes Lukot, elles viennent pas. Il y a eu Matan Torah, don oral. Ensuite, Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne, il a reçu les Lukot. Quand il était en haut, ils ont fait le veau d'or. Il les a brisés. Il est remonté et remonté. Et quand il est redescendu, finalement, c'est ce qui va devenir Yom Kippour. Une parole orale d'Hachem qui est gravée en eux. Mais comme ils n'ont pas entendu les 10, alors du coup, certains disent que c'est parti. Parce que c'était fait pour que les 10 restent. Et s'ils avaient entendu les 10, l'histoire était terminée. Puisque, voilà, ils étaient rendus parfaits par la parole qu'ils avaient complètement intériorisée, comme si Adam Harishon n'avait pas fait la faute le premier jour. S'il avait attendu jusqu'à Shabbat, c'était fini. Shabbat, c'était Olam Haba, quoi.
Bah, c'est pas que perdu d'avance, parce qu'on voit que la nature même intrinsèque de l'homme, c'est à Abou-Dazara. C'est pas qu'il l'a
Non,
oublié.
sa nature intrinsèque, ce n'est pas Avodah Zarah. Nous, on ne pense pas que l'idolâtrie, comme les goïms disent que le monde était d'abord idolâtre et ensuite, petit à petit, s'est éloigné de l'idolâtrie jusqu'à devenir passé de poly à monothéiste et puis ensuite à la Torah. Nous, on pense qu'au départ, Adam Arishon, il connaissait Hachem. Et les premières générations, ce qu'elles ont fait, se sont lentement éloignées d'Hachem. Jusqu'à la septième, c'est Enoch. Et Enoch, à ce moment-là, on a commencé l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie qui commence, elle commence pas du tout par ce que nous on appelle l'idolâtrie directement. Elle commence par un problème. Bon, si vous voulez, pour dire quelque chose sur l'idolâtrie, la raison pour laquelle l'idolâtrie va arriver, d'après nous, va arriver, c'est parce que l'être humain, normalement, en tant que créature qui reçoit, attendez, il y a quelqu'un qui. Ceci ou pas. Ah, oui. En tant que créature, je n'arrive pas. Faire entrer. Ça y est, c'est bon. L'idolâtrie, si vous voulez, elle vient de ce que l'homme, il a, comme il est une créature qui reçoit, alors il a un besoin d'exprimer sa reconnaissance. Et c'est tellement fondamental que d'une certaine manière, c'est ça la première faute qui a été faite par Adam. La chose qu'on reproche à Adam, c'est pas tellement d'avoir mangé le fruit de l'arbre, parce que même ça, pas très clair. Certains disent que sa femme, elle lui a donné de la purée pour qu'il puisse pas reconnaître le fruit, parce qu'elle voulait pas être toute seule à disparaître. Elle n'avait pas tellement envie qu'il prenne une autre femme, etc. Bon, je dis ça comme ça, hein, c'est. Bon, comme ça, d'accord. Et elle, pardon? Elle avait? Alors, la faute qu'on reproche à Adam, on dit à Adam, il était quelqu'un d'ingrat, son ingratitude. Parce que quand Hachem lui dit, pourquoi est-ce que tu as mangé, etc., du fruit, il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui me l'a donnée. Donc, si, sous-entendu, si tu m'avais pas donné une femme, j'aurais jamais fauté. Donc, on considère que cette ingratitude, parce qu'Hachem, il lui a fait une fleur en lui donnant une femme, et cette ingratitude-là, et Kafoui Tova, c'est la première faute. Et donc, c'est sûr que les gens, naturellement, ils avaient envie d'exprimer leur reconnaissance à Hachem. Ça, au départ, ils savent très bien tout ce qu'ils reçoivent d'Hachem, ils veulent exprimer leur reconnaissance. Et au bout d'un moment, ça leur est trop difficile de ne pas pouvoir exprimer les choses de façon standard, parce qu'on peut rien donner à Hachem, et c'est une notion tout à fait abstraite. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que on ne peut pas honorer ou récompenser ou exprimer notre reconnaissance à Hachem, on va l'exprimer aux serviteurs d'Hachem. C'est-à-dire, on va adorer, on va faire des cadeaux au soleil en sachant pertinemment que le soleil n'est que l'exécutant d'Hachem, mais comme on ne peut pas accéder à Hachem, alors on va apporter le cadeau au concierge, quoi. On ne peut pas faire autrement. Donc petit à petit, c'est ça qui s'est imposé, et naturellement, ça a évolué. Au sens où on a donné une autonomie ensuite au soleil et à la lune et à la mer, etc. Donc ça a fait les divinités sans fin auxquelles on a donné une autonomie. C'est-à-dire que si on était à cheval, si on a besoin des marées, alors on va adorer la Lune pour qu'elle nous envoie des marées, si on en veut des marées fortes, alors des fortes marées, si on veut etc. Alors c'est ça l'évolution vers l'idolâtrie. Ça part d'une volonté d'exprimer sa reconnaissance à Hachem. On peut pas, on va l'exprimer à un serviteur d'Hachem, et puis ensuite on va donner à ses serviteurs de l'autonomie. Et ça, c'est l'idolâtrie. Et d'ailleurs, en cela, il y a une différence entre les Bnei Israël et les Goïm, c'est que chez les Goïm, l'idolâtrie, c'est seulement quand ils donnent l'autonomie. Mais ce qu'ils font avant, c'est permis. Chez nous, ça aussi, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer une reconnaissance quelconque au soleil, parce qu'il y a bien lieu d'exprimer une reconnaissance au soleil. Le soleil, on lui doit énormément. Donc, on pourrait penser, ben, ouais, pourquoi pas? Donc, chez nous, c'est interdit, même si tu penses clairement que, bien entendu, ce que je fais pour le soleil, je le fais en vérité pour Hachem, mais je m'adresse au soleil. Et chez nous, ça va très très loin. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune prière qui soit adressée à un autre nom divin que Hachem. Il n'y a aucun korban, ça n'existe pas, korban l'Elohim ou korban lequel Shakai ou korban lequel Rahum, etc. Korban l'Hachem. On n'a pas la possibilité, même si je sais très bien que Elohim c'est aussi un nom Hachem ou à Elohim, donc je pourrais éventuellement vouloir exprimer à Elohim ma reconnaissance, etc., en pensant à Hachem, ça c'est interdit. Même pas, on ne peut pas se le permettre. Bah, ça veut dire on ne peut penser qu'à Hachem et on ne peut pas faire de gestes en direction d'Elohim ou de Kel Shakai, etc. Oui, mais le Kai, c'est le bon Dieu, voilà. Oui. Oui, on peut le dire. C'est pas qu'on peut pas. On peut dire Elokai. Oui, Hachem Elokai. Mais on prie pas. Elokai, on exprime les choses. On dit voilà, la neshama que tu as donnée, elle est pure. En plus, le Gaon il dit que quand dans Elokai neshama, on parle. Qu'est-ce que c'est Elokai? C'est quoi mon Dieu? C'est qui mon Dieu? Mon Dieu, c'est pas le vôtre. Il dit, tiens, mon Dieu, c'est quoi, mon Dieu? Qui c'est, mon Dieu? En quoi? Mon Dieu, c'est quoi? Le Gaon dit, en réalité, dans la neshama de chacun, il y a les fameux trois niveaux de neshama, nefesh, ruach et neshama, mais il y a encore deux autres niveaux supérieurs qui sont complètement en dehors, qui sont où il y a Yechida, c'est l'unique, enfin, il y a Yechida. Et ces parties-là, elles font partie de la divinité, en quelque sorte. Elles sont une partie de la divinité. Donc, je parle Elokai, je m'adresse à ma partie, à la partie de ma neshama qui est divine. Bon, et donc, je m'adresse à elle pour qu'elle. C'est ma façon d'accéder à la divinité, en quelque sorte.
Qu'Hachem réside en nous, on fait référence à
C'est ça.
Et quand on dit Elokai, c'est pas, on s'adresse pas à sa providence divine. Mon Dieu, ma providence divine, c'est un peu ma
Ma
Shekhinah.
providence divine, ce que dit le Gaon, ma providence divine, si vous voulez, c'est mon âme, c'est la partie supérieure de mon âme qui est dans la divinité déjà. Alors,
Oui,
là,
mais
oui.
en fait, quand je m'adresse à Hachem, à cette partie-là, je m'adresse à la partie matérielle, c'est-à-dire à ce qu'il laisse sur terre,
Il n'y a pas de
pas.
partie. Pas de partie matérielle. Il n'y a pas de partie matérielle.
À la
Tout est
partie, à la, sa
éthéré.
représentation, à sa manifestation sur terre.
Non, 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 non. Non, il n'y a pas de, il n'y a rien de, si vous voulez, il n'y a pas, il y a, la manifestation, elle est toujours spirituelle. Alors, elle agit sur terre, mais de façon spirituelle. Et ensuite, ça se transforme, mais on, tout se passe au niveau spirituel, entre la spiritualité divine, si vous voulez, et la spiritualité de chaque corps, corps humain, corps minéral, etc. Tout ça, ça a un niveau spirituel aussi.
Dans le service de la Chine, sachant que quand si on veut le service, ça relève plus de notre
Non, 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 justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire à Hachem, on veut te servir, mais c'est nous qui allons dire comment on te sert. Ça, c'est ce qu'ont voulu faire les gens de la tour de Babel. Naaseh lanou Shem, ce n'est pas du tout qu'ils voulaient ne pas servir Hachem, mais c'est nous qui allons dire comment on va te servir. Et c'est ça qu'Hachem ne permet pas.
Mais ici, ne pas pouvoir faire de l'argent,
Écoute, quand tu veux que quelqu'un te fasse plaisir, tu vas lui dire, je veux qu'on fasse plaisir comme ça. Et si l'autre il dit, mais moi je vais te faire plaisir comme ça, mais si ça ne te plaît pas. Deux.
pour pouvoir le servir en chaîne, qui les empêchait en réalité de
HM les empêche.
le servir, dans leur conception, il n'y arrivait pas. Il suffisait de modifier leur conception.
Mais c'est comme ça, eux, ils voulaient être les maîtres de la façon dont on sert Hachem. C'est ça leur conception, comme tu appelles.
Un service, c'est comme ils le désiraient eux, comme ils le voulaient.
Oui, c'est-à-dire que
C'est pas.
moi, j'ai envie de te servir en faisant le poirier. Oui, d'accord. Okay. Hachem, il a décidé que ce n'est pas comme ça qu'on devait être servi.
Je comprends pas qu'il
Ils empêchent, ils peuvent faire, mais dans ce cas-là, ça sera un bon hasard.
la chaîne. On a l'impression qu'ils ne pouvant pas servir la chaîne. Alors, ils sont comme si les gens n'ont pas pouvoir le servir, mais qu'ils finissent de le concevoir correctement.
Mais le concevoir correctement, on n'a pas de conception du tout. On n'a pas d'image. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est on ne sait pas. On ne sait rien de lui, on sait seulement comment il veut être servi.
C'est grave de concevoir, nous, c'est
On ne
déjà.
peut pas.
C'est comme si j'étais déjà supérieure. Concevoir quelque chose,
Oui,
je
non,
dois
bien sûr.
réaliser, je dois quelque chose.
Ah oui.
Pour que j'ai une référence en moi, pour
Ah oui,
pouvoir.
c'est clair qu'on ne peut pas. Non, on ne peut pas.
En fait, c'est maintenant que. J'imagine que.
Alors, la Torah, elle a argumenté avec Hachem, elle a obtenu la résurrection.
Négocier, ça veut dire.
C'est une fille qui dit à son père, c'est pire que Paro. Amar Ablevi, toujours Ablevi qui parle, et il pose la question que vous auriez dû poser si vous aviez été attentive. Amar Ablevi, Vechi lo haya galoui lifnei hamakom, sheim hu mare kvodo l'Israël ou mashmian kolo sheinan yicholim la'amot. Est-ce qu'Hachem ne savait pas qu'il ne pourrait pas résister au dévoilement de sa gloire et de sa voix? Comment ça se fait qu'il a accepté? Ils ont demandé quelque chose, ils ne pouvaient pas leur dire, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à voir Areinina Kvodecha, Hachem lui a dit, on ne peut pas. L'année, tu veux voir? On ne peut pas voir. Tu vas te mettre dans l'anfractuosité du rocher, je vais passer, je vais mettre ta main, etc. C'est un truc là, et il a rien, quasiment rien vu, quoi. Peut-être, on dit le nœud de la tfila de la tête, qui a été tfilin, ça s'attache avec un nœud derrière. Il a vu les nœuds de Hachem, mais des tfilin aussi. Et donc, il a vu le nœud des tfilin d'Hachem. C'est, bon, après, il faut expliquer ce que ça veut dire, mais c'est tout ce qu'il a vu. Je peux pas. Hachem, il aurait dû leur dire, Rabotai, très bien, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas demander ça parce que vous ne pourrez pas le supporter. Comment ça se fait qu'Hachem a accepté? C'est la question que vous auriez dû poser. Mais je comprends, c'est fin d'après-midi.
Il a parlé à Abraham, vous avez toujours Abraham a douté d'Hachem. Il aurait dû comprendre que si Hachem lui a parlé, il lui a dit comme ça, c'est qu'il était capable d'entendre. C'est lui qui n'a pas accédé au niveau auquel il était capable d'être. Donc on peut-être penser ici ça qu'Hachem a tenté le coup, si je veux dire.
Non, non, non. L'auteur ici, Rav Lévi en question, il n'envisage pas du tout que ce soit une faiblesse des hommes qui pourrait être surmontée. C'est la condition humaine qui supporte pas ça. On avait déjà vu plus haut qu'on avait dit que, écoutez, la voix d'un malach, c'est insupportable. Alors, la voix d'Hachem, à plus forte raison. Et ici, ils ont demandé à la fois à voir la gloire, etc. C'était couru d'avance. Et ce qu'il dit, mais pourquoi Hachem ne les a pas empêchés?
Ben sinon,
Alors,
il n'aurait pas pu inscrire ce commandement dans le cœur des âmes.
qu'est-ce qu'il aurait pu faire?
Non.
Ah. C'est pas le fait que ça s'inscrive. C'était insupportable. C'est comme si on disait la fréquence à laquelle Hachem émet, c'est une fréquence qui est destructrice.
Qu'ils découvrent quelque chose, soit de leur limitation, soit de leur intériorité.
Alors,
Non?
le Midrash, il pense pas exactement comme vous, mais il m'a donné une réponse. Le Rav Lévi dit la chose suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il savait que les Bnei Israël allaient pratiquer l'idolâtrie. Mais avec ce que je vous ai expliqué de l'idolâtrie, vous savez, vous comprenez que l'idolâtrie, d'une certaine manière, en tout cas l'idolâtrie dans la version qui nous est interdite, c'est une idolâtrie qui vient de ce que c'est très très difficile de servir Hachem. On n'y arrive pas parce que justement, on ne peut pas s'exprimer complètement en donnant quelque chose à Hachem, en rien n'est possible. Et ça, c'est insupportable. Et par conséquent, le recours à l'idolâtrie dans ce cas-là, c'est un recours un peu excusable, si vous voulez. Parce que c'est trop difficile, c'est trop abstrait, donc on a été obligé d'aller chercher quelque chose d'un peu plus concret. Et donc, Hachem savait que les Bnei Israël allaient pratiquer l'idolâtrie, et que si on allait leur en faire le reproche, ils allaient répondre. La raison pour laquelle on a pratiqué l'idolâtrie, c'est parce que tu nous as pas montré ta gloire, tu nous as pas fait entendre ta voix, rien du tout, rien de rien. On était obligé de faire un peu, c'est pas du tout une révolte contre toi, c'est que on avait besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire quelque chose. C'est ça l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on a fait l'idolâtrie. Hachem savait qu'ils allaient faire l'idolâtrie et qu'ils allaient, le cas échéant, pouvoir dire cela. Et Hachem ne veut pas, ne voulait pas qu'ils puissent dire cela. Hachem ne voulait pas qu'ils puissent dire, si on a pratiqué l'idolâtrie, c'était parce que c'était trop abstrait. Et donc, il leur a donné ce qu'ils demandaient pour qu'ils ne puissent pas dire, nous avons pratiqué l'idolâtrie parce que on n'avait pas accès ni à ta voix, ni à ta gloire. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem ne voulait pas cela, finalement? Parce que l'idolâtrie, c'est tellement important, qu'on ne peut pas la tolérer, même sous sa forme faible. Donc Hachem ne voulait pas, il voulait en quelque sorte faire apparaître l'idolâtrie comme quelque chose d'absolument interdit. Et si tu le fais, tu n'as aucune excuse. Parce que l'excuse en question, j'ai coupé l'herbe sous le pied, tu ne peux pas l'utiliser. Je t'ai montré ce que tu voulais voir, je t'ai donné ce que tu pourrais vouloir dire. Donc, si maintenant tu pratiques l'idolâtrie, alors c'est vraiment un adultère. C'est vraiment une volonté de te. C'est une trahison. Tu te coupes de moi volontairement en toute connaissance de cause, sans excuse, en fait. Et c'est parce que. Et donc, c'est en pensant que si on dit au Bnei Israël que c'est tellement grave qu'il n'y a pas d'excuse possible, et ils ne le feront pas. Donc, c'est une aide qu'Hachem a proposée au Bnei Israël de cette manière-là. En fermant la porte d'une idolâtrie excusable. Parce que même une idolâtrie excusable, c'est affreux, c'est terrible, terriblement grave, ultra grave. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi c'est tellement grave, mais en tout cas ici, c'est ça que ça veut dire. L'idolâtrie, c'est, Chazal disent, Amodé ba'avodazara ki lo kofer bekol Torah kula. Celui qui reconnaît l'idolâtrie, c'est comme s'il niait toute la Torah. On pourrait penser, on pratique l'idolâtrie, mais en même temps, on est respectueux des principes de la Torah, sauf celui-là. Les Chazal disent non. Je pratique l'idolâtrie, toute ta Torah ne vaut rien du tout.
Sauf que là, l'idolâtrie prend plusieurs figures et elle s'annonce
Alors,
pas.
quelle que soit la figure de cette idolâtrie, elle est absolument rédhibitoire.
C'est sa nécessité de matérialiser, de s'accrocher à
Ça, ce
certaines
que je vous
choses.
dis, Akadosh Baruch Hu a voulu, on voit dans c'est ça que ce Midrash nous dit, il n'en est pas question, quelle que soit l'excuse que tu peux choisir, l'excuse en question, elle aurait été bonne. C'est pas, ça justifie pas, mais bon, ça a atténué énormément. Mais même cette forme-là d'idolâtrie est interdite. Inacceptable. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de possibilité de légitimer, donc c'est inacceptable, absolument inacceptable.
Mais
Et l'idée, c'est même l'idolâtrie, pour nous donc, l'idolâtrie, même celle dans laquelle je sais très bien que ce que je vise, c'est Hachem. Je m'adresse au concierge parce que j'ai eu accès au concierge, mais je vise le propriétaire. Mais rien ne t'empêche de viser Hachem. Mais la Torah, elle ne permet pas ça. La Torah ne veut même pas qu'il y ait des gestes d'idolâtrie. Même en faveur d'Hachem, si on peut parler comme ça. C'est parce que, oui, l'idolâtrie, c'est pas simplement le fait de se courber devant des statues, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit effectivement c'est une façon de voir le monde. Cette vision du monde-là, elle est absolument rédhibitoire. Non, Hachem a vu qu'ils allaient faire de l'idolâtrie. Et pourquoi ils allaient faire de l'idolâtrie? parce que c'est difficile. Alors, Hachem a voulu les empêcher de faire l'idolâtrie en leur disant, mais c'est gravissime, c'est comme si tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas traverser la rue au feu rouge parce que tu es un assassin si tu fais ça. Ouais. Qu'est-ce qui m'empêche de traverser sans être un assassin? Ou est-ce que j'ai le droit de prendre ma voiture sans être obligatoirement un assassin? Parce que je ne respecterai pas un piéton sur son passage protégé. Faut faire attention, non? Ouais, faut faire attention. Mais je ne veux pas du tout que. C'est rédhibitoire. C'est impossible. Et c'est possible que pour nous, on n'a pas vraiment idée de ce que c'est que l'idolâtrie. Et c'est possible que ça ne nous paraît pas si grave. On a tendance à prendre ça un peu à la légère, mais l'idolâtrie, c'est. Si vous voulez, on a des exemples quand même des idéologies. L'idéologie, c'est une forme d'idolâtrie dont on pourrait penser qu'elle est. Bon, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas une idole, mais l'idéologie, c'est quand même des idéologies qu'on a connues. Au XXe siècle, c'est des idéologies qui, en particulier, ont amené des parents, des enfants à dénoncer leurs parents. Ben, ça veut dire qu'on a cassé complètement une relation normale entre parents et enfants. Les enfants ont dénoncé leurs parents parce qu'ils étaient ou pas assez nazis ou pas assez communistes. Et ils envoyaient leurs parents au goulag ou au camp de concentration. C'est juste pour donner un exemple. Hein, qu'est-ce que, ouais, c'est ça, l'homme. Les petits gosses du Hamas, ils sont. Voilà. C'est pas une idéologie, ça. C'est-à-dire, tu pourris l'être depuis son début, les enfants communistes, nazis, Hamas, et tout ça. Les enfants sont pourris dès le départ.
Mais quand on dit que ça dans la nature de faire
Non,
ça.
ce qui est dans la nature de l'homme, c'est la volonté d'exprimer sa reconnaissance. Et maintenant, si quelqu'un vous dit, je veux m'exprimer ma reconnaissance à ton égard, mais bon, je vais le faire à ma manière. Et si cette manière-là, elle vous déplaît ou si elle vous fait mal, bon ben, vous n'allez pas l'accepter. Et l'autre, il peut pas dire, mais c'est moi qui exprime là, donc je fais ce que je veux. Non, tu peux pas faire ce que tu veux.
Mais quand vous avez enseigné que les grands sadiques et tout ça, ils relevaient leur manteau pour courir.
Ah, mais ça, Shalom, j'ai pas dit que c'est des grands sadiques.
Non,
Ah, non, non.
ah, je pense pas.
Non, non, c'est. Oui,
Il a dit ça.
hein?
Il a dit ça.
Il a dit, tu aurais relevé tes pas les sadiques.
Oui, je
Il
crois.
lui a dit, toi, c'était tel le must de l'idolâtrie. C'était tellement un must. Mais c'était comme ça, si vous voulez. Comme aujourd'hui, par exemple, vous pouvez pas avoir dans certaines universités un poste si vous n'êtes pas contre, si vous n'êtes pas woke ou je sais pas comment ça s'appelle, comme on ne pouvait pas être prof de philo si on n'était pas marxiste il n'y a pas si longtemps en France, etc. C'est comme ça, c'est voilà, c'est non.
Et ce nom s'achève tout le long, la Torah nous dit pour qu'on se surpasse, qu'on atteigne
Oui.
ce que l'on est, mais là, c'est encore.
Mais là, c'est une façon de nous aider en disant, écoute, c'est tellement grave que je t'enlève la possibilité de te raconter des histoires en te disant, mais que c'est pas vraiment grave, c'est parce que je suis pas vraiment un idolâtre. Je suis seulement quelqu'un qui a besoin de pouvoir m'exprimer et je peux pas m'exprimer par rapport à Hachem, donc je m'exprime, comme j'ai dit, j'ai pas accès au propriétaire, donc je m'exprime, je parle au concierge.
Que l'idéologie, c'est par le Nazara, là, on va dire que c'est pour servir Hachem, que c'est que je veux faire plaisir Hachem.
Non, mais on peut très bien. Les idéologies en question, elles disaient que c'est pour le bien-être de l'humanité. C'est pour sauver la race allemande ou le bien-être de l'humanité. Ou
Elle se cache de la vie.
des fois, l'idolâtrie, elle dit pas son nom, oui, bien sûr. Sous prétexte de ceci, bon, bien sûr, c'est vrai. Voilà, c'est ça le nouveau point. Le problème de l'idolâtrie. Davar acher. Toujours Anokhi Hashem Elokecha. Amar Rabbi Abaou. Machal le Melech Basar Vadam Molech. On prend un machal, on verra après pourquoi c'est un machal, n'est-ce pas? Comme toujours, le problème du machal dans le Midrash. C'est un roi de chair et de sang, qui règne. Mais quand il est roi, tant qu'il est roi, au moment où il est roi, Yesh lo av, il a un père, il peut avoir un père. Au ach, il peut avoir un frère. Amar Kadosh Baruch Hu, Ani, Eniken. Moi, c'est pas comme ça. Chez moi, c'est pas comme ça. Il y a un passouk qui dit Ani Rishon, Ani Acharon, Umi Baladai, Ein Elokim. Je suis premier, je suis dernier, et en dehors de moi, il n'existe aucune divinité. OK? Alors, le Midrash, il fait une dracha. Ani Rishon, Ein Liav. Je suis premier, donc il n'y a pas un père. Si j'avais un père, le père, il serait avant moi, je ne serais pas premier. Vani Acharon, et je suis dernier, c'est-à-dire après moi, il n'y aura pas d'autre roi, c'est-à-dire Ein Li Ach, n'est pas de frère. Umi Baladai Ein Elohim, et en dehors de moi, il n'y a pas de divinité, chez Ein Li Ben, je n'ai pas de fils. Ça, c'est le couplet anti-chrétien que vous avez certainement entendu. Alors, vous voyez, c'est un machal. Pourquoi c'est un machal? Parce que Hachem n'est pas roi seulement. Il est une divinité. Et ce qu'on a dit, on ne pouvait pas le dire sur le. On ne voulait même pas dire directement. Donc il faut descendre les choses au niveau d'un machal pour qu'Hachem puisse dire moi, même si effectivement j'accepte d'être roi, mais je ne suis, même quand je descends au niveau roi, je ne suis toujours pas comme les rois. Comme un roi ordinaire, parce que je suis tout seul. Je suis Echad. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de roi avant moi qui m'ait confié la royauté, ni quelqu'un qui pourrait me succéder, ni quelqu'un qui soit mon fils. C'est cette unité, en fait, d'être tout seul, vraiment tout seul. D'avoir Acher, mais dans le même numéro. Et en général, quand c'est dans le même numéro, c'est un rapport. Vous vous souvenez de l'histoire de la princesse et... Ici, il dit Anochi Hashem Elokecha, Adaou Dirtiv. Ça correspond à ce qui est écrit dans un passouk de Yeshaya ou Anavi, le prophète Yeshaya, qui a dit Anochi higadti veoshati veishmati. Moi, j'ai raconté, j'ai sauvé et j'ai fait entendre, etc. Et alors, il est Doresh. C'est ce même Rabbi Abaou, je ne sais pas. Anochi higadti le Mitzrayim shebarachtem, kidei sheyishmeu virdefu acharechem veyitbeu bayam. Sheneemar vayugad le melech Mitzrayim kivarach ha'am. Quand les Bnei Israël ont discuté, quand Moshe Rabbeinu a discuté avec Paro. Il voulait obtenir de Paro la permission pour les Bnei Israël d'aller servir Hachem pendant 3 jours, que Paro ne voulait pas le donner, mais il lui a toujours parlé de 3 jours. Et quand finalement Paro a chassé les Bnei Israël à cause de la plaie de la mort des premiers-nés, dans la tête de Paro, quelque part, les Bnei Israël étaient partis pour 3 jours éventuellement. C'est pas très clair parce que Moshe Rabbeinu a obligé Paro à déclarer que les Bnei Israël n'étaient plus ses esclaves. Donc si c'était que pour 3 jours, ben, il n'avait pas nécessité de les libérer de leur condition d'esclave. Donc c'était pas très clair, mais à un moment donné, en tout cas, vous savez bien que Paro, quand les Bnei Israël sont partis, il a envoyé des gens suivre les Bnei Israël pour voir ce qu'ils allaient faire. Et quand ces gens-là ont vu que les Bnei Israël s'éloignaient de plus de 3 jours de marche de l'Égypte et qu'ils continuaient à s'éloigner, ils sont revenus dire à Paro, le peuple est en train de s'enfuir. Ils reviendront pas. Alors Hachem dit, c'est moi qui ai fait savoir au roi d'Égypte que vous êtes en train de vous enfuir. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il sache que vous êtes en train de partir, d'enfuir, de vous enfuir, qu'il vous poursuive et qu'il se noie dans la mer. Donc Hachem dit au Bnei Israël, moi j'ai fait quelque chose pour vous. Je vous ai pas seulement sorti d'Égypte. Je vous ai pas seulement fait franchir la mer. Mais j'ai fait en sorte que l'armée égyptienne soit noyée. C'est-à-dire que le danger que représentait l'Égypte pour vous, il n'existe plus, plus du tout. Il n'y a plus d'Égypte. Ça, c'est ce que j'ai fait pour vous. Ensuite, quand les Égyptiens vous ont poursuivi, qu'ils vous ont rattrapé, au Shaati, je vous ai sauvé. J'ai ouvert la mer pour que vous puissiez passer. Et ensuite, j'ai fait connaître au monde entier ce que j'avais fait pour vous. Eux, ils l'ont su. Tout le monde a su ce que j'ai fait pour vous. Et c'est pas seulement l'histoire de la mer qu'ils ont su. Shamu Amim Irgazun, c'est-à-dire qu'ils ont été bouleversés complètement. Mais c'est aller un peu plus loin. C'est aller jusqu'à Matan Torah. J'ai fait en sorte que les autres peuples vont savoir, aller savoir que je vous ai donné la Torah. Ça va se savoir, mais, Ein bachem zar. Toujours ces psukim du Navi. C'est des psukim qui sont de la Torah, mais la fin, je ne sais pas si c'est vraiment de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit ici? De quoi? Oui, justement. Mais c'est le Midrash, il juxtapose le passouk de la Torah et le passouk de Yeshaya. En bachem zar. n'y avait pas d'étrangers. Ça veut dire, au moment de Matan Torah, les seules personnes qui ont entendu la parole d'Hachem, au moment de Matan Torah, c'était tous des Bnei Israël, tous des Juifs, si vous préférez. Il n'y avait aucun non-juif. Aucun non-juif. Alors vous me direz, mais il y avait les gens, les Révraves, qui sont sortis en même temps que les Bnei Israël d'Égypte. Ceux-là, le Midrash pense qu'ils se sont convertis. Mais qu'est-ce que nous raconte ce verset avec Yitro, là, que Moshe Rabbeinu l'a envoyé son beau-père? Vous vous souvenez probablement du fromage que Yitro, donc tout le monde se rappelle, que Yitro, c'est un des trois conseillers de Paro. Et c'est dans les trois conseillers, il y avait Bilam qui a donné le conseil de noyer les garçons. Et Yitro, il n'a pas supporté, il est parti. Et ayant quitté le conseil de Paro, il est devenu persona non grata en un grand prêtre ou un grand personnage en Midian. Bien qu'il soit un grand personnage, il n'était pas vraiment aimé et pas vraiment respecté. La preuve, c'est que ses filles, elles étaient sans arrêt embêtées quand elles allaient faire boire leur troupeau au puits. Et il n'avait que des filles, il n'avait pas de garçons. Alors, Yitro, c'est quelqu'un qui est réputé avoir tout essayé. Il a essayé toutes les religions, toutes les idéologies, etc. Et à un moment donné, après avoir fait tout le tour, il arrive et il est convaincu que la bonne voie, c'est la voie de son gendre, Moshe. Donc, il se met en marche pour aller vers Moshe. Et il arrive chez Moshe. Et notre Midrash ici, il pense qu'il est arrivé après Matan Torah. Ça veut dire que Yitro, il était en voie de conversion, mais comme il n'était pas converti, il n'était pas à Matan Torah. On me dirait, bon, c'est Yitro. Bon, ce dont le Midrash ne parle pas, mais il faut juste se souvenir qu'il y a là une dimension absolument tragique de l'histoire. C'est que quand mon cher Rabbeinu a fini par obéir à Hachem, pour avoir résisté pendant une semaine, et qu'il est allé pour délivrer les Bnei Israël, il est allé avec sa famille. Et quand il est arrivé en Égypte, Aaron, il lui a dit, mais qui c'est cette femme-là et ses gosses? Il a dit, mais c'est ma femme, mes enfants. Alors on lui a dit, mais ça va pas dans ta tête. Nous, on se désole tous les jours d'avoir des femmes et des enfants qui souffrent ici en Égypte dans cet esclavage, et toi, tu amènes ta femme et tes enfants? Alors Moshe a dit à Tzipora, bah, retourne chez ton père. Tu ne vas pas rester, c'est dangereux, c'est des souffrances auxquelles, effectivement, suivant le conseil de Aaron, faut pas que tu restes, faut que tu rentres. Mais rentrer chez son père. Mais quand Yitro est venu chez Moshe, elle est venue avec son père. Donc si Yitro est arrivé après Matan Torah, eh bien Tzipora et les enfants sont aussi arrivés après Matan Torah. Imaginez le clan d'Israël. Tout le clan d'Israël a reçu la Torah au Sinaï, et la femme et les enfants de Moshe, non, pas reçu. Il n'était pas là. Il n'était pas là parce qu'Yitro ne pouvait pas être là. À moins qu'il les ait envoyés en avance, mais on ne voit pas très bien. Quand Yitro arrive, il dit, je suis là et avec ta femme et tes enfants. Il dit pas, j'ai envoyé en avance. Donc on a cette situation terrible finalement, pour Moshe Rabbeinu, d'avoir sa femme et ses enfants, qui sont une exception dans le clan Israël, pour le clan Israël, de même la conversion de tout le clan Israël, elle a lieu en même temps. Tout le monde s'est converti en même temps avant. Mais eux, ils ne sont pas convertis à ce moment-là. Donc, ils sont les premiers à se convertir à titre individuel. On comprend presque, en entendant ça, on comprend que les fils de Moshe, ça n'a pas vraiment marché, quoi.
Ils sont pas cités,
Ils sont cités, mais...
de fait.
Et Moshe Rabbeinu avait voulu que, quand Hachem lui a dit que c'est pas lui qui allait entrer les Bnei Israël faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël, il aurait voulu que ce soit ses fils qui prennent la suite. Hachem l'a dit, non, ce sera Yoshua. C'est que Moshe, il pensait qu'il aurait la même chose que Aaron. Aaron, il a eu ses enfants qui lui ont succédé. Et lui, il pensait que mes enfants ont succédé.
C'est illustré que l'on ne passe pas une riche femme.
Oui, bon, c'est très joli. C'est pour Moshe Rabbeinu, c'est assez long.
Mais écoutez, ne peut pas éduquer ses enfants, puisqu'on dit qu'avec sa femme, il ne pouvait pas être près de sa femme parce qu'il devait être toujours disponible
Ça,
pour
c'est après, ouais.
elle. Il savait qu'avec ses enfants, on ne peut pas se conduire en
Non,
paix.
ça arrive à d'autres endroits. Effectivement, des gens qui ont des responsabilités communautaires ou autres, ils ne sont pas disponibles pour leur famille. Ces fois, ça vous mange quelqu'un.
Parce qu'on parle des fils d'Aaron, certes, il avance, je ne pas m'avancer, je vais savoir, j'ai entendu. Mais les fils de Moshe, je ne sais pas si on en parle dans la Torah, mais quand il y a rien qui reste.
Oui, mais
Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus comme tout, quoi, qui les a élevés, comment?
Tipora,
Pourra, je veux dire, on a dit la parole complète des
et on est à un cours de femmes, on ne
nègres.
va pas dire du mal des femmes.
Non, je pourrais te demander s'il y a tout ça, mais je pense. C'est important, les enfants de Moshe n'ont pas été à la toi. C'est quand
Mais
même.
bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis.
Mais il y a une suite à ça. Il dit
Non, il n'y a
qu'il
pas de suite.
doit y avoir des conséquences qui n'est pas
Oui, il y a
là.
des conséquences, c'est que les enfants n'étaient pas à la hauteur. Si Hachem n'a pas donné à Moshe la satisfaction d'avoir ses enfants qui lui succèdent, c'est vrai qu'on peut déduire de là que la Torah ne se transmet pas par héritage. C'est pas parce que leur père était un. C'est mon cher Abénou que eux, ils doivent être aussi. Ok, mais peut-être on aurait pu attendre une génération pour le faire la démonstration. Pourquoi il fallait obligatoirement faire la démonstration? C'est sûr qu'elle est imparable, la démonstration, à partir du moment où elle est faite à partir de Moshe. Mais bon, néanmoins, ça veut dire. Je ne connais pas de texte qui dise la douleur de Moshe quand il a appris ça. Mais je pense. Ça ne devait pas être facile à supporter. Donc, moi, il était en bon terme avec Yoshua, qui était vraiment son élève et tout. Mais.
Non, je pense qu'ils n'auraient pas, je n'aurais pas en fait, de se faire la caméra. Ils se positionnent dans les terres d'Israël de façon significative. Mais ça, ils n'ont pas
Qui? Pardon, qui?
non plus. Ils n'auraient pas assisté
Mais
à ça.
non, mais Yitro, il est le grand, il est le. C'est une superstar, hein. On n'est pas conseiller de Paro. Un des trois conseillers de Paro, si on n'est pas une superstar. Vous imaginez qui c'était, je veux dire, c'est Kissinger au carré, je veux dire, au cube, je sais pas. Mais enfin bon, être le conseiller de Paro, ça devait être. Paro, il avait le choix, hein, il avait. C'est un empereur, il doit avoir, il avait le choix de choisir les personnes. On ne sait pas du tout d'où il sort, Yitro. On ne sait pas du tout s'il était vraiment égyptien. On voit qu'il a une mentalité d'égyptien, que quand Moshe arrive chez lui, qu'il lui raconte qu'il a tué un égyptien, il le met en prison. Il le met presque à crever, quoi. Mais Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il était égyptien. Ça veut dire, on nous dit que quand il entend Moshe Rabbeinu nous raconter l'histoire, il a la chair de poule parce que raconte l'histoire des malheurs de l'Égypte. Donc, on commence à penser que c'est un Égyptien. Mais en tout cas, il était suffisamment proche de l'Égypte pour devenir conseiller de un des trois conseillers de Pharaon, imaginez. Et donc, c'est un très grand bonhomme et il a dit quelque chose qui a été accepté selon l'organisation du système juridique judiciaire en France, en Israël.
Une certaine personnalité, parce que pour partir devant Pharaon,
Oui, non, bien sûr, à part ça, oui, bon, il a pu
il faut
s'enfuir, hein, il
pas.
s'est enfui, quoi.
Oui, avec les moyens de Pharaon, j'imagine qu'on pouvait retrouver.
Oui, bon. Bah, mon chéri aussi s'est enfui.
Mais c'est
Par
pas
contre.
un signe pour le temps futur de savoir que Tzipora n'était pas justement au Matan Torah et qu'elle fait partie quand même du clan?
Salut.
C'est pas pour les bons futurs. Que Tzipora ne soit pas là et les enfants. Ça n'engage pas la tutelle.
Pas compris ce que vous avez dit, Erdine.
Je disais, en fait, vous avez cité plusieurs catégories. Il y avait les Béné Israël qui étaient là au Matan Torah, il y avait les Erevrav qui se sont convertis. Il y avait Yitro qui a fait une démarche et qui s'est ensuite adhéré, mais qui n'était pas au Matan Torah. Et il y avait Tsepora. Et Tsepora, le fait qu'elle
Elle
n'était
n'avait
pas au
pas
Matan
fait
Torah.
n'a pas fait le travail. Elle pouvait pas le faire, elle n'était pas là.
Mais elle a fait après. Elle fait
Oui,
partie du clan.
bien sûr qu'elle l'a fait après. Mais c'était après les Bnei Israël. Bien sûr qu'ils ont intégré le clan d'Israël. Mais ils ont intégré le clan d'Israël. Ils étaient la seule femme et les seuls enfants qui, à ce moment-là, intègrent le clan d'Israël, mais à titre individuel, si on peut parler comme ça, ce sont la femme et les enfants de Moshe.
Pour le déguiser ou c'est écrit?
Pardon?
Pour le déguiser ou c'est
Ben,
écrit?
c'est écrit qu'il est venu dans le passouk, il est venu
Alors, mais qu'après ce soit converti tout seul.
Mais comment est-ce qu'il peut faire autrement si ils ne sont pas convertis? Mais c'est marqué que lui, il était en voie de conversion, mais il ne s'est pas encore converti. Donc c'est machma qu'il s'est converti après.
C'est pour ça, pour le déguiser.
Bon, ben, Tsipora, c'est sûr qu'elle s'est convertie. C'est pas Yitro, après il est reparti, Tsipora, elle est restée. Oui, c'est évident qu'il a dû se convertir, puisque tout le monde a dû se convertir. Voilà, on va en rester là.